Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Cécile Pécondon-Lacroix, qui est vidéaste, et moi-même sommes très heureuses de pouvoir vous accueillir ici pour donc la parution de l'ouvrage Enfance, art et quotidienneté, une invitation à être et devenir. Cet ouvrage est publié chez RS et donc est sorti aujourd'hui même. On assiste vraiment, voilà, à la parution, l'enfantement, ce qui est très émouvant puisque on est dans le concret d'une création. Avant toute chose, je voudrais remercier donc la librairie Moller de nous avoir permis d'être ici ce soir pour partager un moment de présentation et d'échange avec vous, de remercier les éditions RS et de saluer en l'occurrence Marie-Françoise Dubois-Sacrisper qui est ici présente et qui est accompagnée de Liliane Gesterman. Et je voudrais vraiment remercier donc les éditions de m'avoir accordé leur confiance. D'abord parce que le projet, il est atypique. Il était atypique déjà dès son origine. Et donc vraiment, je trouve formidable qu'une maison d'édition ait accepté de faire un pas de côté, de rentrer un petit peu dans ce que ça induisait d'exigences et d'aventures et d'inconnus. Et puis aussi parce que je ne suis pas auteur référé et donc référencé, je veux dire, et que ça voulait aussi, je trouve, laisser comme ça une grande confiance de la barre de Marie-Françoise Dubois-Sacrisper pour miser sur le fait que j'irai au bout du bout, bien qu'on ne termine jamais les choses complètement, mais au moins au bout d'une réalisation et d'une concrétisation du projet que je pouvais comme ça avoir en tête. Donc vraiment, merci beaucoup. Je voulais également remercier la Fondation de France et je salue ce soir Madame Beauce, qui donc a pour nous a posé un acte symbolique très fort, puisque au-delà du soutien financier que la Fondation nous a accordé, pour moi c'est vraiment un engagement qui valide et qui légitime les valeurs humanistes que nous défendons. Et je trouve que dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est très fort pour nous, moralement, pour toute l'équipe et pour les personnes qui m'ont accompagnée dans cette aventure, de sentir qu'il y a des gens qui ont cette éthique et qui n'ont pas peur, qui ont cette audace, en tous les cas, de continuer à soutenir des projets, de leur donner vie pour que, voilà, ils puissent réellement s'incarner. Je remercie également Odile Robert qui est présente dans la salle, qui a donc dirigé la structure pendant près de 30 ans, qui a donné ce souffle et cet esprit incroyable dont je me suis fait un peu la porteuse de parole. Et j'ai eu la chance de co-diriger avec elle pendant 4 ans, avant qu'elle puisse prendre sa retraite il y a un an maintenant. Mais la passation, pour le coup, s'est faite avec beaucoup de douceur. Une dureté, par ailleurs, dont je serai amenée à parler tout à l'heure, mais qui n'a rien à voir avec Odile. Mais en tous les cas, je veux dire, un temps pour toutes les deux, pour à la fois que je puisse recevoir et m'imprégner de tout ce vécu, tout cet historique, ce foisonnement d'initiatives qui a pu se mettre en place au cours du temps, et en même temps sentir comment je pouvais, moi, en faire quelque chose. Cet ouvrage, c'est une aventure collective. Je me suis entourée de personnes qui ont fait œuvre à l'intérieur de cet ouvrage et qui sont donc co-auteurs. Donc Cécile Pécondon-Lacroix, je l'ai sollicitée pour réaliser un film donc, dont l'intitulé « Quand le vent s'en mêle » et qui est intégré à l'ouvrage et qui témoigne de la démarche éducative et de la place de l'artistique dans le quotidien au niveau de la maison des enfants. J'ai sollicité Olivia Laborde, qui est animatrice musicienne depuis de longues années au sein de la Maison des Enfants et qui, assistée de Pierre Hanoun, a réalisé et conçu un CD audio intitulé « Des sons et des songes » et qui témoigne de tout ce rapport de la poétique du son et de cette invitation qui est faite d'une ouverture au monde par la culture via, si je puis dire, ce canal du rapport au son, à la matière sonore et à la musique. Et il y a également Carla Ranco, photographe graphiste, que j'ai sollicité pour m'accompagner à la fois dans le choix des photos, dans la mise en forme de l'ouvrage, puisque c'est extrêmement important pour moi qu'il y ait un croisement entre éthique et esthétique, entre forme et fond, puisque c'est le cœur même du propos que je vais pouvoir tenir tout à l'heure. Donc, qui a été vraiment là pour vraiment travailler les photos et m'aider à architecturer l'ensemble pour que chaque image trouve sa place et offre un espace aussi un petit peu de vacuité par rapport au texte, que ce soit pas toujours dans un rapport de, surtout pas de redondance, mais je veux dire d'illustration, mais plutôt dans une invitation à cheminer, à se promener à l'intérieur de cet ouvrage. Donc, Enfance, art et quotidienneté, le résultat de 3 années de travail, d'une aventure collective, puisque j'ai été extrêmement entourée, soutenue par toute l'équipe de la Maison des Enfants. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pris le temps de me faire part de leur retour, puisqu'à chaque ébauche, à chaque strate finalement de travail, c'était très important pour moi, puisque je me sentais passeuse d'une pensée et d'une pratique, pouvoir m'ajuster et entendre voilà, un petit peu les retours et les impressions de ce que les uns les autres de l'équipe ou du réseau plus proche de professionnels pouvaient en dire. Donc pour ce soir, en fait, on va essayer d'organiser la soirée en trois temps. Le premier qui va plus être une présentation de l'origine de l'ouvrage, de son contexte, d'où est-ce qu'il est né, d'où est-ce qu'il vient. Une deuxième partie qui sera plus sur le propos même, le contenu donc, de l'ouvrage. Et un troisième temps qui sera donc un temps de partage avec vous, où vous aurez toute latitude pour nous faire part de vos impressions, commentaires, questionnements. On sait très bien qu'à travers cet ouvrage, et c'en est le but aussi, on ouvre un espace de parole. Donc on sera dans des prémices. Et nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est au fil des rencontres qu'on pourra faire, de récolter, de collecter, et de récolter ce que ça peut générer après, ensuite, au niveau de ce que ça vient mettre au travail, au niveau de la pensée, du désir et de perspectives dans lesquelles on peut les uns les autres se projeter. Vers 19h15, parce que comme partout, nous sommes quand même dans une temporalité, on ouvrira un espace de parole plus informel, on pourra se retrouver. Je sais que dans la salle, il y a justement Olivia, Catherine, que j'ai vu arriver, Odile, voilà, Cécile, etc. On sera à votre disposition de façon plus informelle pour si jamais les uns les autres, vous souhaitez prolonger la conversation d'une façon un petit peu plus voilà, isolée ou légère, informelle, voilà, que vous n'avez pas forcément pu prendre la parole dans un espace plus collectif. On fera ça. On anime, on exerce avec ce que l'on est, avec ce sur quoi on s'est construit, à ce qui fait sens pour soi-même. Mon parcours, il m'a amené à une pratique transversale. Transversale artistiquement, puisque j'ai pu pratiquer la danse et le théâtre, danse en danse contemporaine d'expression africaine, et théâtre dans le sens de théâtre gestuel, théâtre musical, théâtre masqué, et aussi au niveau de différentes fonctions professionnelles, puisque j'ai pu exercer la profession d'animatrice, j'ai également été formatrice, pédagogue, directrice de structure, et également directrice d'acteurs, par exemple, dans le cadre de mise en scène par rapport à différentes compagnies. Mais à chaque fois, quel que soit l'espace finalement de mon lieu d'intervention, ce qui a été fondamental pour moi, c'était d'être au service du vivant, de mettre en circulation du vivant, d'être vraiment dans une dynamique de mise en jeu qui fasse que je sente que quelque chose voilà, était à la fois fort, authentique et dans une connexion avec l'essence même de l'être. J'ai eu la chance de faire des belles rencontres qui m'ont ouvert les yeux, notamment les rencontres avec le clown de théâtre. Quand j'étais étudiante en IUT carrière sociale à Rennes, j'ai découvert donc cette pratique théâtrale. Et si vous voulez, pour moi, ça a été un grand choc parce que c'était une leçon de vie. C'était tout d'un coup une invitation à accepter la personne dans son humanité et à oser s'autoriser, en tous les cas, jouer avec tous nos petits travers, nos petites zones d'ombre, nos jalousies, nos orgueils, notre ego, toutes ces choses-là. Et ne pas porter de jugement sur ces questions-là, mais considérer que ça fait partie de l'humain et le mettre en jeu dans une dynamique théâtrale. Donc ça, pour moi, ça a été une révolution. D'autant plus que c'était dans les années qui suivaient 68, qu'on était tous plein de certitudes, on va dire politiques, dans différentes appartenances politiques. On avait nos vérités, c'est des grandes périodes de militantisme estudiantin. Et si vous voulez, on avait des représentations. Enfin, moi, en tous les cas, je me suis rendu compte que j'enfermais des fois l'autre dans une représentation que je me faisais de lui-même. Et par le clown, j'ai pu découvrir des personnes dont je n'avais absolument pas imaginé qu'elles puissent avoir ce degré de sensibilité ou d'humanité, parce que je les enfermais dans une certaine vision d'elles-mêmes. Donc le clown a été vraiment pour moi une première révélation du mystère finalement de l'humain et de la richesse de la relation humaine, quand elle est comme ça dans une aventure de liberté. Et puis avec le Théâtre du Mouvement, avec qui j'ai été comédienne pendant 6 années, qui est une compagnie de théâtre gestuel sur Paris, j'ai été invitée à m'éloigner du théâtre, on va dire, psychologique, d'une approche conceptuelle de l'art, pour être au contraire à l'endroit de l'incarnation, de l'imprégnation, d'une conscience corporelle extrêmement intériorisée qui me donnait des clés et les moyens de traduire le cheminement d'une pensée. Pas dans le sens d'une illustration comme du mime traditionnel, parce que c'est du théâtre gestuel, mais dans le sens de rendre perceptible et palpable quelque chose qui est de l'ordre d'une pensée traduite dans cette poésie, dans ce mystère d'un corps en jeu, d'un corps en mouvement. Et qui ne passait pas par une démarche intellectuelle, mais par une conscientisation, une incarnation de ce qu'on appelait la comédie du muscle. Mais ça m'a permis de penser que le corps était le lieu aussi d'une pensée, que le corps est un corps pensant. Je reprends de ce point de vue-là tout le bénéfice de ce que a pu m'apporter Marc Guiraud, qui est également présent dans cette salle et que je salue, et qui, au niveau de cette notion du corps en jeu, m'a par la suite, au sein de formations que j'ai pu faire avec lui, permis de mieux nommer cette question du corps, donc de cette pensée en acte, en corps et en mots, que c'était vraiment un tout et que les choses étaient comme ça en interaction entre elles, qu'on ne pouvait pas cliver les choses et que plus on écoute en nous ce corps qui parle et qui pense, plus on a des supports pour justement pouvoir s'humaniser. Toutes ces rencontres, puisque justement je parle de Marc, j'ai également rencontré sur Bordeaux Marc, qui est psychosociologue, qui est donc le fondateur de l'association Transit. Et j'ai rencontré aussi Jean-Pierre Agostini, également psychosociologue. Et tous les deux, chacun à leur manière. Pour Jean-Pierre Agostini, c'était plus dans un groupe de parole que j'avais constitué avec d'autres professionnels artistes sur la notion d'intervention artistique, notamment. Il nous a offert une structure ouverte de gestion de connaissances où l'invitation qui était faite, c'était d'arrêter de vouloir chacun préserver ses connaissances et de ne plus être dans une peur de se faire piquer des idées ou piquer des projets, mais au contraire, pouvoir les partager ensemble, repérer à quel point chaque individu avait sa propre structure mentale et que tout l'intérêt d'une dynamique de groupe n'était pas de trouver un consensus mou où chacun est dans un espèce de freinage où il ne peut pas réaliser fondamentalement ce qu'il est, mais qu'au contraire, c'est en frottement des différences qu'on pouvait trouver une alchimie qui donne une identité de l'ordre presque du patrimoine qui constitue un groupe, une identité particulière d'un groupe ou d'un lieu. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment une très belle alternative que j'ai retrouvée dans la formation d'animation de situations de mise en jeu du corps qu'animait Marc Guiraud, ou par d'autres portes d'entrée, puisqu'en l'occurrence, c'était par des mises en jeu du corps, par des temps de parole, par des situations à vivre. On était invité également à pouvoir trouver sa place dans sa propre singularité, comprendre la cohérence de toutes les errances qu'on pouvait avoir, les doutes, les incertitudes, en quoi finalement ça tournicotait autour de ce qui nous anime profondément, chacun, chaque être, et qui fait qu'à un moment donné, il faut bien trouver cette fameuse connexion pour que ça fasse sens et qu'on se sente vivant. Donc il y a vraiment eu ces personnes-là qui m'ont aidé dans ce rapport de bienveillance, de non-jugement, d'ouvrir sur des possibles, et de cultiver, d'essayer de trouver l'art et la manière, de cultiver dans sa propre pratique professionnelle, quelle qu'elle soit, cette façon, justement, cette mise en jeu, cette mise en mouvement qui fasse que même dans des impasses, on puisse à un moment donné trouver des alternatives pour ne pas se retrouver empêché de se réaliser soi-même. À ce propos, d'ailleurs, quand j'étais formatrice à l'Institut régional de formation des travailleurs sociaux sur Talence, dans des médiations non verbales, j'ai pu expérimenter toute cet espace de liberté, c'est-à-dire que en réinvestissant, en m'appropriant des outils comme ça qui m'avaient été transmis, en donnant la possibilité à ces étudiants de se connecter à leurs émotions, de ne pas avoir peur de se connecter à ce qui faisait sens pour eux, permettait tout d'un coup de partager, de déposer des prises de conscience, des ressentis, des difficultés, des peurs, enfin toutes ces choses qui fait qu'on est vivant et puis que voilà, on est des hommes, sans justement y porter ce jugement. Et on arrivait à une dynamique au niveau de la semaine où tout d'un coup, on n'était plus dans ce genre de fonctionnement de groupe où il y aurait toujours un leader qui déciderait pour les autres, où il y aurait la peur d'oser exprimer une différence. Et même par rapport à des tensions qui pouvaient exister en début de semaine, je pouvais vraiment accueillir cette espèce de transformation comme ça qui se mettait en route et qui faisait qu'on se rendait compte que quelles que soient les personnes avec qui on était amené à se trouver dans cette semaine-là, on arrivait à travailler en bonne intelligence et dans une dynamique créatrice. Alors, ça va, je vais pas trop vite, un peu vite ? Non. Parce que j'ai ma voisine qui va me tempérer parce que j'ai des fois des ardeurs. J'ai fait le choix de quitter le théâtre du mouvement à un moment donné parce que je trouvais que le niveau de technicité, le seuil c'était presque de l'ordre d'une virtuosité recherchée, mais qui faisait sens quand même, mais où vraiment la barre était mise très haute, pour moi, m'éloignait d'un espace quotidien, d'une quotidienneté. Alors c'est marrant parce que je ne l'aurais pas dit comme ça à cette époque-là, mais j'avais envie d'être à l'écoute de personnes qui avaient de toutes sortes de corps, n'importe quel âge, n'importe quel bagage corporel en elles-mêmes. et pouvoir proposer un vocabulaire gestuel beaucoup plus accessible, basé sur des actions quotidiennes, comme s'asseoir, marcher, se lever, se coucher, des choses que tout le monde sait faire, et où toute la question était de se poser la question de comment on habitait ces actions corporelles-là. Donc déjà, j'avais cette envie, en tous les cas, d'aller vers quelque chose qui soit dans un rapport plus de quotidienneté. Et puis, il y a eu toutes ces années, ça continue encore, de grands mouvements de mobilisation d'artistes qui soulevaient toutes leurs inquiétudes autour de leur précarité et de leur statut social, d'artistes dont je faisais partie, et qui donc essayaient d'alerter l'opinion sur leur statut d'intermittent du spectacle. Et à ce moment-là, j'avais eu une autre prise de conscience qui était qu'il y avait un clivage incroyable entre la société en général et les artistes, et que beaucoup de personnes ne prenaient pas la mesure de ce dont la société s'était coupés au niveau de leur quotidien, justement dans cette dimension sensible, et qu'on était en tant qu'artiste perçus souvent comme des privilégiés qui ne travaillions pas des semaines pleines, qui nous faisions plaisir. Enfin, alors quand je dis ça, j'ai pas d'animosité du tout par rapport aux personnes, mais je me suis dit que j'étais co-responsable en tant qu'artiste de ce clivage qui s'était opéré, que je ne pouvais pas seulement me contenter d'en incriminer des politiques et des décisions institutionnelles, etc., et que moi, à mon niveau, même si j'avais essayé par la pédagogie, par la création et l'interprétation de rencontrer un public transversal, je pense que le moment était venu pour moi d'essayer d'être au service de projets sociaux, culturels, et d'essayer de générer des passerelles qui permettraient cette connexion entre art et quotidienneté. Et quand j'ai fait la formation avec Marc Guiraud, je commençais comme ça, c'était les prémices où je commençais à formuler peut-être le temps pour moi de quitter l'espace scénique, l'espace du spectaculaire, et peut-être de mettre mes outils au service d'une autre forme de projet social et culturel. Alors la vie, elle est quand même, dans ce point de vue-là, surprenante, puisque au moment où j'étais dans les prémices de cette conscience-là, on m'informe de l'opportunité d'un poste qui se libère sur la maison des enfants, donc poste pour lequel j'ai postulé, poste pour lequel j'ai été prise. Mais quand on m'en a parlé, je connaissais la maison des enfants en tant que mère, puisque mon fils avait eu la chance avec moi d'aller dans les lieux d'accueil par enfant sur le jardin de l'eau vive, qui est une des trois structures de l'association dont je vous parlerai, où j'ai pu découvrir comme ça une mise en œuvre finalement du projet d'origine hein, de Françoise Dolto, des Maisons Vertes, où il y avait eu comme ça cette volonté politique de la ville de Bordeaux d'être dans cette qualité d'accueil et d'offrir, d'inventer un espace qui s'inspire directement des Maisons Vertes. Donc j'en ai bénéficié en tant que mère et mon fils en a bénéficié également. Ensuite, il a pu aller à la Maison Soleil, qui est une deuxième structure, pour découvrir des ateliers d'expression artistique. Et moi-même, en tant qu'artiste, j'avais pu découvrir la Maison des Enfants parce que j'avais pu proposer des performances artistiques et participer à des spectacles, notamment avec la compagnie de théâtre musical Le Grain, qui est sur Bordeaux. J'avais pu repérer quelques éléments de ce projet associatif, cette qualité d'accueil, cette bienveillance, ce rapport au temps, tout cet environnement esthétique, et plus spécifiquement au niveau de la Maison des Enfants, l'ouverture au monde par la culture et l'importance vraiment de la dimension artistique, des médiations artistiques et de la dimension esthétique au sein du quotidien. Et ensuite, en tant que directrice, j'ai davantage pris mesure de toute la richesse identitaire de cette équipe, de ce projet et de ce lieu, notamment avec la mise en place d'une pluridisciplinarité d'équipe, puisqu'on parle beaucoup de la différence, mais entre en parler, le mettre réellement sur le terrain, au travail, pouvoir rassembler des personnes qui viennent d'horizons différents, de formations différentes, donc de rapports au monde différents, réussir à ce qu'ensemble, par les divergences de points de vue, mais parce qu'aussi on est d'accord profondément sur une éthique, on arrive à trouver des alternatives qui nous rassemblent, qui nous fédèrent. Donc ça, c'était une très grande force. Par la particularité aussi de rassembler différentes tranches d'âge, de permettre que dans une structure, puisqu'on est quand même dans un monde où on a souvent tendance à faire des catégories extrêmement comme ça, on met dans les cases hein, de plus en plus, vous avez dû remarquer. Donc là, dans un lieu qui génère une transversalité, puisqu'on accueille depuis le tout petit de 12 mois jusqu'à 12 ans, ça veut dire qu'on est dans un rapport de continuité, hein, de fratrie, de mise en confiance comme ça, qui peut permettre ensuite des inscriptions de parents, de famille d'un autre ordre. Donc j'ai pris toute la dimension de ces particularités-là. Et donc je considérais en choisissant d'accepter ce poste, d'avoir comme ça une opportunité magnifique qui m'était offerte, d'articuler donc art et quotidienneté, de défendre les valeurs auxquelles je crois, dont je vous ai parlé, et puis de sentir qu'elles étaient complètement en lien donc avec les valeurs de l'association, qui s'appelle donc Association Petite Enfance, Enfance et Famille, et qui gère les trois lieux. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je suis arrivée en septembre 2005, avec tout ce dont je viens de vous parler, et en janvier 2006, suite à une procédure d'alerte enclenchée par le commissaire aux comptes, on a dû mettre en place une restructuration qui a donc été extrêmement violente, puisqu'il a fallu donc réduire des contrats, engager des licenciements, penser complètement différemment, enfin complètement j'exagère, mais en tous les cas prendre en compte l'amputation budgétaire qu'on exigeait. Et donc je me suis retrouvée à co-gérer avec Odile une situation de crise, avec surtout, et c'est ça qui était peut-être le plus traumatisant, c'est la première fois que je l'entendais, mais je pense que pour l'équipe, c'était les premières fois aussi où c'était formulé aussi clairement, une remise en cause de ce qui nous caractérisait et de ce qui faisait toute la richesse de l'identité de ce projet associatif. C'est-à-dire qu'on commençait, et d'ailleurs ça s'est après accentué de plus en plus clairement et explicitement au fil des ans, mais qu'il fallait donc réduire la voilure, et que l'action culturelle coûtait cher, et qu'il fallait peut-être revenir à davantage de préoccupations, de rentabilité, de seuil d'exclusion, de taux de fréquentation, toutes ces notions. S'il y a des professionnels de la petite enfance parmi vous et de l'enfance, qui doivent tout à fait comprendre de quoi je parle. Donc il y avait à la fois ça, et je ne pouvais pas non plus, donc il y avait ce désarroi qui découlait de cette restructuration avec tout ce que ça a pu générer. Et puis d'un autre côté, j'étais en pleine mue, puisque j'avais fait le choix de quitter et la scène et la transmission dans le face-à-face pédagogique, étant donné que l'équipe est extrêmement riche, créative, que c'est vraiment une équipe de professionnels qui sont en adéquation avec le projet. Et quand ils montent des projets, fondamentalement, il n'y a rien à en redire, puisque ça fait sens, c'est opportun, ça découle de la situation du moment, etc. Ils n'avaient pas besoin de moi pour que je leur propose des bonnes idées. Et donc, je savais très bien que ma place n'était pas non plus, je n'avais pas à m'engouffrer tout d'un coup dans ce que je pouvais connaître, là où j'avais une certaine maîtrise, dans un savoir-faire, d'une transmission comme ça autour de médiation artistique. Donc, j'étais dans un grand désarroi en me demandant ce que je faisais là, si c'était bien juste que je sois là, surtout que je pensais percevoir qu'on attendait quelqu'un de gestionnaire qui redresse la situation, et je n'avais pas tout à fait l'impression d'avoir ce profil. Bon, ce qui me rassurait, c'est que Odile non plus. c'est là que l'ouvrage a pris corps. C'est là que l'idée de l'ouvrage a pris corps. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. Parce que je me suis dit, s'il y a un endroit, j'avais quand même pendant au moins 25 ans défendu ces valeurs que je vous ai présentées en introduction. Donc le défi était quand même pour moi de trouver du sens et de me retrousser les manches pour savoir à quel endroit ça pouvait se connecter avec ce que j'étais fondamentalement. Et s'il y a eu un endroit pour moi, j'ai trouvé que ça faisait du sens, c'est dans le fait d'être une passeuse de parole et d'essayer de poser un regard et une parole sur tout cet héritage, toute cette histoire, de vraiment pouvoir témoigner de cette pensée qui s'est élaborée sur 30 années et qui s'est tissée d'énormément d'initiatives, d'expériences, de prises de risques, de petits pas de côté que l'équipe se permet, qui justement fait qu'on n'est pas dans de la routine et dans des choses qu'on va instituer, remettre d'année en année, reconduire sous prétexte que ça marche bien et tout ça. Ce n'est pas du tout de cette manière-là que les choses se font et s'inventent. Donc, j'ai perdu mon fil, Cécile. Donc, l'ouvrage, voilà, c'est pas grave, je vais rebondir par là, faisait sens donc à cet endroit-là. Je voulais pas qu'il soit qu'à l'endroit d'un témoignage. Je trouvais que c'était important, mais je trouvais que c'était important aussi qu'on avait tellement engrangé d'outils de réflexion que la moindre des choses, c'était de le partager et de pouvoir l'ouvrir hors de nos murs pour le mettre au service de professionnels de la petite enfance et de l'enfance, qui soit l'endroit de l'éducation, de l'animation, de la santé, de l'artistique, pour, et même aussi au service de parents qui s'intéressent au futur de leur enfant, à tout ce processus justement dans le grandir. Qu'est-ce qu'on veut finalement que nos enfants deviennent et vers quelle société on a envie d'aller et qu'est-ce qu'on est en train de semer et d'engranger pour chacun à notre manière être dans une résistance créatrice. Je me permets d'ailleurs à propos de faire une allusion sur cette notion de résistance créatrice parce que depuis que je suis référencée comme auteure aux éditions RS, je suis informée, ou peut-être que j'y fais plus attention, de beaucoup de colloques et de conférences comme ça qui sont proposées par différents auteurs. Et j'ai eu la chance d'aller l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, à Paris, sur cette conférence autour de cette notion de résistance créatrice où c'était une vraie invitation interprofessionnelle, au vu de tous les bilans qu'on peut faire les uns les autres de maltraitance, de différentes formes de maltraitance et de perte de sens, d'encourager en tous les cas à ce que chacun à son propre endroit, aussi petit soit sa proposition, qu'il puisse essayer comme ça de trouver la brèche, l'espace de jeu pour remettre un petit peu de vie et qu'on puisse non pas tendre le dos en subissant, mais cultiver justement cette pulsion de vie. En pensant que de toute façon le vent peut toujours tourner, hein, espérons que le vent tourne, et qu'à ce moment-là les choses soient prêtes et suffisamment mûres pour tout d'un coup se déployer. Donc dans cet ouvrage, parallèlement, il y avait donc ce projet d'ouvrage, et puis parallèlement j'avais sollicité Cécile pour venir faire un film de 2-3 minutes au niveau des 3 structures de l'association pour témoigner de notre démarche éducative auprès de la petite enfance en pensant le proposer dans une assemblée générale de notre association pour déjà commencer un petit peu à témoigner de notre richesse, hein, toujours en réaction à ces injonctions qui nous étaient faites. Pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait de cette manière-là, ça n'a pas pu se faire de cette manière-là. Mais Cécile, tout de suite, m'a dit, je veux bien, parce que j'ai eu le culot de lui demander d'intervenir bénévolement, puisque nous étions en pleine phase de restructuration, et bien évidemment, il n'y a pas de budget spécifique pour monter ce projet. Et donc Cécile, tout de suite, a accepté généreusement de s'embarquer dans cette aventure, sans trop savoir, voilà. Mais elle m'a tout de suite dit, si je le fais, je voudrais que tu réfléchisses à comment ce travail pourrait être quand même valorisé, pensé dans une perspective en lien avec un projet, un cadre, quelque chose qui soit plus institutionnel et qui fasse qu'il ne soit pas comme ça perdu du travail, qui reste un petit peu dans nos tiroirs par la suite et qui ne prenne pas toute sa place. Donc du coup, ça a été le déclencheur pour que je relie le film à l'ouvrage. Et par association d'idées, et parce que j'avais envie d'être sur une notion de transversalité, c'est comme ça que j'ai pensé donc solliciter Olivia pour la création, en plus du CD audio, de façon à ce qu'on soit aussi dans une transversalité de lecture et que les personnes, en fonction de leur propre sensibilité, puissent rentrer dans l'ouvrage par la lecture de l'écrit, par la découverte du film ou par l'écoute du CD, et qu'elle puisse elle-même déambuler, cheminer au gré de sa propre inspiration. C'est presque une performance artistique, dans le sens où je pense qu'il n'y a vraiment pas une manière d'entrer dans l'ouvrage. Enfin, pour moi, ça, c'était important de le penser comme ça. Et puis, de générer une entrée aussi sensible, au sens aussi d'une sensorialité, de façon à ce que ce ne soit pas un ouvrage dans lequel on rentre que par le canal, on va dire, intellectuel, cérébral, mais qu'on soit sensible à cette dimension poétique à laquelle je souhaitais, et que justement, on puisse sentir que chaque langage va pouvoir offrir un regard, voilà, un champ un peu d'exploration qui lui est propre, et qui justement va ouvrir, et je l'espère, de façon un petit peu imprévisible, inattendue, eh ben des fenêtres qui vous permettront peut-être d'entendre les mots autrement. Voilà, ce qu'on peut mettre des fois sous les mots. C'était dans cette croisée-là que j'avais envie que l'ouvrage puisse se construire. Donc par rapport à cet ouvrage, c'était important pour moi de trouver une distance, de trouver un tiers. Et donc, je remercie vraiment les administrateurs de l'association de m'avoir permis pendant 2 années d'avoir un mi-temps complémentaire pour faire un Master 2 en pratique artistique et action sociale et pouvoir enclencher les interviews auprès donc de parents, de professionnels, d'artistes, d'anciens enfants qui étaient devenus grands, de les écouter dans ce que ce lieu avait laissé comme trace, en quoi ça avait fait sens pour eux, qu'est-ce que c'était venu finalement déposer en eux, qu'est-ce qu'ils pouvaient en dire 10, 15, 30 ans plus tard. Ça m'a servi de base de données pour venir faire tout mon travail d'analyse et d'écriture au niveau du mémoire. Et c'est à partir de ça, c'était pour moi le socle qui était extrêmement important, qui pouvait être validé par d'autres personnes avec la rigueur comme ça universitaire qui à ce niveau-là était nécessaire pour moi, pour qu'ensuite je puisse me laisser aller dans une démarche d'écriture beaucoup plus libre. Voilà, donc c'est un petit peu, si vous voulez, pour moi, cet ouvrage, il est aussi le témoin et il porte en lui-même, dans sa propre identité, la trace finalement de ce croisement entre mon itinéraire, ce qui a fait sens pour moi, et l'aventure de cette maison des enfants. Donc je vais laisser la place à Cécile pour présenter l'ouvrage.
Eh ben moi déjà, je vais prendre le relais, Agnès, sur la question du sens. Oui, c'est vrai que quand tu m'as demandé d'intervenir sur la maison des enfants pour filmer à l'époque l'atelier mise en jeu du corps qui faisait pas beaucoup de suffrage auprès des parents, donc tu m'avais dit peut-être que tu peux venir filmer et que ça va donner envie. Bon, alors je sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, on est parti sur une autre aventure. Et en même temps, c'était drôle qu'on se rencontre de cette façon-là, puisqu'on s'est rencontrés, tu dansais et moi je dansais. Et peut-être que le fait de d'être rencontrés dans un langage non-verbal nous a donné à penser que nos imaginaires pouvaient se rencontrer. En tous les cas, ça nous a... voilà, on est parti dans cette aventure, puisque toi, tu m'as donné carte blanche sur la réalisation de ce film. Et que ça a été une carte blanche aussi que toute l'équipe de la Maison des Enfants m'a confiée, parce qu'il n'était pas question que ma présence dans l'espace, non seulement de la Maison des Enfants, auprès des équipes et puis auprès des enfants, soit pas pertinente. C'est-à-dire que les équipes, toutes les personnes que j'ai, qui ont accepté ma présence, que ce soit pas quelque chose qui fasse sens pour elles, parce que si ça faisait pas sens pour elles, moi, mes images, elles auraient jamais été sensible. Donc ça a été une aventure qui a été vraiment pensée comme une création en soi. Et création en soi, parce que moi déjà j'étais concernée par cette question-là, puisque j'ai connu la maison des enfants et le jardin de l'eau vive, parce que je suis maman d'une petite fille qui a été accueillie dans ces structures. Donc pour moi, quand l'équipe m'a dit « mais comment tu vas faire pour filmer ce qui n'est pas visible ?» Eh bien j'ai dit « je ne sais pas, mais en tout cas, moi ce que vous faites dans cette maison, j'en sens quelque chose de ma relation à ma fille, de ma relation à ce lieu ». Alors ça a été très compliqué pour moi parce que je suis passée de l'autre côté de la porte. C'est-à-dire qu'en tant que parent, il y a des portes qu'on ne peut pas franchir. Et bien là, je passais de l'autre côté de la porte et mine de rien, ça ne m'a pas fait rien. Donc ça a été un peu compliqué tout ça. Mais toute cette mise en jeu, toute cette, ça a créé de la pensée entre moi, Agnès, les images, cette maison, et que tout ça a été un processus où on a démarré, non pas sans y réfléchir, parce que moi j'ai demandé à la Maison des Enfants qu'ils réfléchissent à vraiment ma position d'artiste. Donc il y a eu des affiches de fête pour signaler aux parents, aux enfants que j'étais présente, qu'il y avait une caméra. Donc tout ça a été pensé, et le fait que ça a été pensé, ça a donné un film où on était d'accord sur la matière même, c'est-à-dire que ce ne serait pas un ouvrage pédagogique, ce ne serait pas une mise en scène particulière, il n'y aurait pas de commentaires, on ne savait pas où on allait, mais au préalable, on avait mis quand même une éthique, ou des bords, un cadre. Et ça, voilà, ça a trouvé sa place naturellement dans cet ouvrage. Ça a trouvé sa place aussi, puisque quand le film est sorti, après qu'on ait travaillé à son architecture avec Agnès, eh ben, ça a eu des rebondissements, puisque l'opéra et la direction des jeunes publics a décidé de l'associer au colloque art, enfance, art et quotidienneté au Grand Théâtre de Bordeaux. que de ce fait, ils ont convoqué l'Utopia pour présenter le film, que ça a donné lieu à des débats. C'est comme si, en fin de compte, ça reliait non seulement notre propre histoire avec Agnès, notre propre histoire singulière, mais aussi que ça faisait sens pour beaucoup de gens. Que ça a pris sens parce que des professionnels, maintenant, le film fait objet de débat, que le livre, on l'espère, Agnès, enfin, je l'espère pour toi, va faire objet de débat, et que tout ça fait acte de culture. Mmh. Et que c'est comme si c'était un processus de création qui se donnait à voir et à se découler au fur et à mesure qu'on y pensait. Mmh. Et que ce livre, c'est une super étape. Je suis très heureuse de le voir en vrai, mais que... je suis sûre que ça va donner lieu aussi à ce que quelque chose puisse se réinventer à partir de là, que la pensée continue à partir de là.
Tout à fait. Ça s'enclenche, on verra par la suite, mais c'est pour ça que je disais que c'est vraiment de l'ordre d'une création artistique, puisqu'on sent, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que Cécile dit, on sent qu'on continue à ne pas savoir vers quoi ça va aller, mais on sent qu'on est dans une dynamique qui crée du possible. Et ça, c'était un des enjeux, justement, de cet ouvrage. Donc, voilà, on est dans cette dynamique-là. Sur ce titre, justement, « Enfance, art et quotidienneté », c'est important pour moi que ce soit un titre générique qui ne nomme pas un propos, une problématique spécifique, mais qui soit une espèce de chapeau ouvert, qui en même temps laisse des espaces vides entre chaque mot et qui renvoie au fait que, puisque l'enfant est au centre, parler de l'enfant, c'est parler du père, de la mère, de l'enfant, c'est parler donc des professionnels, des parents, de l'enfant. On se retrouvait à chaque fois dans un rythme ternaire, hein, une dynamique comme ça triangulaire, qui permet toujours qu'il y ait justement ce tiers. Et par rapport donc à tout cet acte culturel qu'on revendiquait, pour nous c'était important. Enfin, pour moi, j'ai senti qu'il y avait une justesse dans ce titre-là. Et j'avais envie aussi qu'il traduise une transversalité d'enjeux. Hein, que rien que le fait que... Pour moi, c'était très important de mettre une invitation à être et devenir, puisque voilà, en même temps, je parlais d'une éthique, mais il y avait voilà, ces notions où on savait qu'on allait être à plusieurs endroits. Donc l'endroit de la socialisation, l'endroit d'une éducation artistique, de médiation artistique et d'une éducation vraiment culturelle, et l'endroit d'une transmission, hein, d'une posture, transmission et d'un savoir-faire. Les trois modules, donc j'en ai parlé, voilà. Donc je pense que je peux juste dire ça. Et puis on va rentrer un petit peu plus dans le livre en tant que tel. Non.
Alors Agnès m'a confié la lecture de son livre, donc j'en ai noté des passages qui pour moi font sens. Donc je vais me permettre à différents moments de piocher des choses que dans Enfance, art et quotidienneté. S'il est une urgence, c'est bien de réintroduire du vivant, nous dit Agnès Coinet, dès l'ouverture de Enfance, art et quotidienneté, une invitation à être et devenir. Donc, quand Agnès Coinet parle de réintroduire du vivant, j'ai envie de vous lire une citation qu'Agnès a choisi de mettre dans son livre de Luce Dupraz, qui dit « Quand garantir pour tous les enfants un espace stable où grandir en paix n'est plus assuré ?» Quand la famille soumise aux changements rapides qui affectent l'économie et la société se retrouve de plus en plus en décalage et voit désormais son autorité minée de tous côtés, quand la télévision introduit longuement l'enfant dans un monde d'images qui flatte ou stimule ses désirs et accroît ses frustrations, on ne peut s'étonner de l'éclatement de la cohérence éducative qui en résulte. Alors donc, il semble crucial de laisser la place à d'autres possibles. Pour que l'enfant puisse s'humaniser, il semble crucial d'ouvrir un espace pour une pensée créatrice qui permette à chacun, qu'il soit enfant, parent ou professionnel, d'être au monde. Agnès, tu as choisi comme terreau d'étude la maison des enfants, mais le regard que tu portes sur la socialisation et l'altérité, le savoir-faire et la transmission, l'éducation artistique et la vie culturelle, ces trois grosses thématiques qui structurent ton livre, concernent en fait toute situation d'accueil et d'accompagnement. Tout simplement parce qu'il te semble fondamental et il semble fondamental que tout projet social, éducatif, culturel, soit pensé à partir d'une éthique fondatrice. Et donc il s'agit donc ici d'éthique et de questions de fond. Et Agnès, tu nous soulignes en postulat de ton livre. La culture naît de la pensée et du vide. Cet espace reconnu essentiel chez le bébé a tendance à être oublié au fur et à mesure que l'enfant grandit, voire obstrué par l'obsédante frénésie du toujours plus, qui bien trop souvent propulse l'homme, réduit au statut de consommateur, dans une course éperdue. Et s'il est question de déroulement de la pensée, le temps construit donc toute colonne vertébrale du projet éducatif. Penser le temps, c'est donner du temps au temps, en étant pleinement là. C'est faciliter une adaptation, la séparation entre parents et enfants, et c'est apprivoiser cette question de la séparation dont tu nous invites à penser, Agnès. À travers ton ouvrage, tu portes un regard sur la posture éducative et sur les enjeux de la dimension artistique.
Donc, dans cette première partie sur la socialisation, c'est vrai que parler de socialisation, c'est toucher au fondement même de la relation. Et je ne pouvais pas ne pas faire le lien avec une des personnes que j'ai interviewée, qui c'est Monique Guénaud, qui a été adjointe sur la mairie de Bordeaux, et qui, dans un interview, disait « Il nous faut nous interroger sur les personnalités qui se fabriquent dans les crèches et sur la société que nous bâtissons pour demain. » Donc, elle disait ça en 81. Cette personne est devenue une vieille dame, mais c'était vraiment très émouvant pour moi de la rencontrer parce que elle a fait partie de toute cette équipe des années donc 80 qui ont vraiment milité pour sensibiliser les gens, les politiques, les institutions, etc. à la nécessité d'une qualité d'accueil à tous les enjeux qu'il y avait déjà sur les prémices pour tous ces enfants dans cette découverte du groupe, de la collectivité. Et que vraiment, c'était très important à l'époque de quitter la politique hygiéniste pour vraiment poser les jalons d'une éducation qui vraiment garantisse le grandir de l'enfant. Et c'est vrai que si on veut pouvoir favoriser une altérité positive, il faut pouvoir. Ça suppose beaucoup de choses qui prennent du temps. On ne peut pas se satisfaire d'une socialisation qui serait basée sur la peur, qui serait basée en permanence sur l'empêchement, sur l'agressivité, sur des choses comme ça. Donc, si on veut pouvoir garantir cette tranquillité, cette sérénité, pour que l'enfant vraiment puisse se mettre debout, pas que physiquement parce qu'il tient sur ses pieds, mais parce que vraiment il se verticalise et qu'il a cette capacité à se situer dans un groupe, il a cette capacité à faire confiance à ses émotions, à traverser des difficultés parce qu'il sait qu'il va être accompagné, qu'on va l'aider. À pouvoir petit à petit comprendre, résoudre aussi, traverser des étapes pour lui-même. Toutes ces questions-là nécessitent de prendre le temps et ne peuvent pas se faire sans qu'on mette au cœur même du projet cette qualité d'accueil dont au sein de l'association on parle, mais on n'est pas sûr d'être réellement entendu à l'endroit de la profondeur de ce que ça sous-tend, voilà, d'une qualité d'accueil. Ça prend du temps et ça se manifeste de plein de manières. Et c'est bien évidemment accueillir les personnes qui ont franchi le seuil et qui sont dans ce premier pas d'arrivée, de demander des renseignements. Mais c'est vraiment aussi permettre, comme je vous ai dit, à des enfants de trouver leur place, de résoudre des difficultés, de cheminer à l'intérieur d'une dynamique de groupe et de leur propre réalisation. Cette qualité d'accueil et cette qualité d'accompagnement, elle va passer aussi par une ouverture au monde qui puisse se faire par la culture, dans ce que j'en ai déjà pu en dire, mais aussi par cet éveil sensoriel. C'est-à-dire que David Le Breton, il en parle très bien dans son livre « La saveur du monde ». Il dit qu'il y a une interaction, une phénomène de causalité très grand entre finalement la sensorialité qu'on peut avoir et puis le développement de la pensée. Par exemple, chez les Esquimaux, ils connaissent une dizaine de blancs, Il voit réellement une dizaine de blancs, le blanc humide, le blanc mat, le blanc sourd, le blanc... Et si vous voulez, c'est pas une abstraction. C'est-à-dire que pour eux, le fait qu'ils soient confrontés par cet environnement de glace et de neige, et c'est une réalité sensorielle, physique, qui est directement liée au rapport à la lumière, au son, à l'humidité... Ça participe, pardon, à leur propre conscience de la couleur. Et ça, c'est valable pour tout, à tous les endroits. C'est-à-dire que plus on va permettre à un enfant d'expérimenter physiquement, on l'accompagne dans des petites prises de risque qui sont en adéquation avec son désir du moment de grimper, de monter des escaliers, de crapahuter, etc., plus on lui donne la possibilité, en les incorporant, de se construire, mais de développer aussi son propre, la richesse même de la représentation qu'il peut avoir du monde, de l'appréhension du monde et de sa pensée. Et donc c'est fondamental que dans cette qualité d'accompagnement, on ne soit pas qu'à l'endroit d'un éducatif au niveau d'un apprentissage purement intellectuel, etc., mais qu'on soit vraiment dans des mises en espace sensoriels qui soient des invitations à vivre des situations qui leur permettent justement de grandir et de développer leur propre intelligence. Donc voilà, c'est compliqué en même temps de parler du livre parce que je ne peux pas non plus raconter ce que j'ai déjà dit, mais voilà, il y avait cette notion pour moi qui était importante de peut-être de prendre ce temps-là en ouverture de livre, d'être à cet endroit-là de ce qu'on essaie de défendre au niveau de l'association et de la maison des enfants, de ces enjeux autour du rapport à soi, à l'autre et au monde.
Oui, puis sur la question de l'éducation artistique et de la vie culturelle, Agnès, tu nous rappelles qu'il est bien question de donner une âme et de faire circuler une vivance. Qu'allier la dimension culturelle et artistique à l'accueil des enfants, les préserver d'un agir permanent en leur permettant des temps de solitude, offre la possibilité d'expérimenter d'autres modes de relation, d'imaginer, d'inventer la formalisation d'un langage. Alors l'invention d'un langage qui ouvre le travail sur le sensible pour créer l'inimaginable, pour permettre à l'homme, au petit homme, de se sentir sujet. Et donc là, tu cites Annie Ketchapas. L'art est fondamentalement un espace de transmission et permet d'assumer, d'avoir reçu en amont quelque chose de quelqu'un, d'en avoir éprouvé du plaisir et d'en faire quelque chose d'autre. Cette filiation, cette transmission qui relie à la fois ici et maintenant avec ce que quelqu'un d'autre a réalisé à une autre époque, dans une autre culture, verticalise donc l'enfant qui en prend conscience. Elles offrent ainsi une voie qui réintroduit la dimension symbolique et compense de ce fait la position addictive que la société actuelle entretient. Et donc là, je vais vous lire une petite citation d'une plasticienne, un témoignage sur ce qui peut se faire dans l'éducation artistique et la vie culturelle. On souhaitait proposer aux enfants qui venaient à l'école à pied de repérer tout ce qui pousse sur les trottoirs de la ville et que ça devienne un chemin poétique, qu'ils regardent ces plantes sauvages, vagabondes. On avait demandé à la ville d'arrêter de désherber pendant un temps. À l'école, on a fait une grande fresque à partir de leur trajet de la maison à l'école. Le plan du quartier vu par les enfants, avec leur maison, leur chemin. On est allé visiter des jardins de parents. Bernard était plus à l'endroit de la découverte de la végétation et moi, j'avais un atelier. C'est comme ça qu'on a regardé le mur d'enceinte de la maison des enfants, et qu'on a vu ce figuier qui poussait. Les arbres, c'est bien, c'est important l'herbe qui pousse. Quand tu ne vois plus d'herbe sur des étendues entières, et qu'en plus on désherbe, on sulfate, on désertifie la terre, c'est pas mal de dire aux gosses qu'ils peuvent avoir leur point de vue sur ces questions.
Alors justement, sur ces questions du rapport comme ça à la nature, c'est vrai que ça c'est une autre richesse et une autre singularité du projet d'équipe et de la structure, c'est justement cette place accordée à la nature, qui est une nature source d'inspiration permanente, dont se saisissent les animateurs artistiques, dont se saisit l'équipe, finalement, et qui crée du lien en permanence, des allers-retours en permanence, dans des tas de projets qui vont pouvoir se mettre en place. Et ça, c'est, vous aurez l'occasion de le découvrir à l'intérieur donc, du livre. Mais là, bah, par exemple, pour cette année, je sais que pour l'équipe qui travaille plus avec les 6-12 ans, il y a tout ce projet autour de la biodiversité en relation avec le collectif « L'oiseau fait son nid ». Où déjà l'année dernière, sur cette thématique-là, il y avait des déclinaisons de fêtes autour des migrations des oiseaux, les nidifications, les différents nids, et où il y avait comme ça, que ce soit au niveau de la danse, des arts plastiques, de la musique, ça a vraiment servi de matière et de source d'inspiration. Et cette année, il y a des projets autour des insectes, de réaliser en terre des ruches, des termitières, de par exemple en musique, s'inspirer de composition musicale, d'œuvres électroacoustiques autour du murmure des abeilles, de rencontrer des apiculteurs. Et c'est en permanence, les enfants vraiment vont inventer et construire un petit peu ce projet et donc en parler entre eux, réaliser hein, différentes, que ce soit des expositions, des œuvres, des compositions musicales, etc. Mais dans cet aller-retour permanent, comme ça, entre eux, ce que la nature peut proposer, offrir et qu'on peut prendre le temps de regarder, et ce que ça vient générer pour soi-même et de ce qu'on pourrait avoir envie d'en dire en trouvant l'art et la manière justement d'inventer, de réinventer, de transposer à partir de ça. Il y a dans toutes ces notions de médiation artistique, ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a une présence d'artistes. Il y a une présence d'équipes qui sont donc sensibles à ces notions de médiation artistique et qui vont s'inspirer et intégrer leur manière dans leur pratique professionnelle, donc des projets qui vont découler de choses comme ça, qui vont être insufflés. Mais il y a aussi des artistes invités, des artistes extérieurs, et qui, le coup, vont balayer, apporter un souffle, apporter une respiration, chambouler un petit peu notre fonctionnement, et par leur résidence, par leur création, etc., ben, amener comme ça encore un souffle à l'intérieur de la structure qui va permettre, en tous les cas, pour les enfants qui ont une pratique artistique, de repérer que ce qu'ils font, ça se situe aussi dans un ensemble qui les dépasse, qui va au-delà d'eux-mêmes et qui leur permet comme ça justement de relier ce qui a pu exister il y a un siècle, deux siècles, ce qui pouvait se faire par des personnes, des plasticiens, des chorégraphes, des musiciens ailleurs, ce qu'ils font eux-mêmes et puis ce qui peut comme ça s'inventer encore plus tard. Donc ça participe aussi à la façon pour l'enfant peut-être de s'aventurer dans cette exploration et dans ce cheminement de cette pratique artistique, de ces pratiques artistiques qui peuvent être proposées. C'est pas parce que c'est une invitation artistique que c'est une invitation à l'expression complètement libre, où on pourrait tout faire, où il n'y aurait pas de... L'enfant est vraiment, rencontre un vrai espace de liberté, mais si vous voulez, il y a vraiment un cadre qui est posé, des limites sur tout ce projet dont j'ai pu parler, mais aussi, comme me le signalait Catherine Pugeot, qui est animatrice plasticienne dans la structure, c'est aussi induit par la matière même des outils ou du langage artistique qui est proposé. Par exemple, elle citait qu'elle, au niveau de la terre, le fait que l'enfant, dans ce pétrissage, dans ce modelage, s'il veut structurer une forme, il faut quand même qu'il arrive à ce que cette forme ait une certaine stabilité, qu'elle tienne. Ensuite, elle va être confrontée même à la cuisson, à l'épreuve du feu, qu'il est possible que des pièces soient brisées. Il doit attendre parce que de toute façon, il faut d'abord qu'il y ait cette pré-cuisson avant qu'il puisse l'enduire pour passer à l'émaillage, etc. Et donc, de toute façon, il est confronté à la limite du temps, à ce que la matière feu même va ramener de ce qu'il avait imaginé, de ce que serait sa pièce, etc. Donc, il y a vraiment plus une grande confiance qui est faite dans ce cadre au niveau de quelque chose d'extrêmement simple qui va faire que l'enfant n'est pas saturé d'indications, de choses à faire. Il est vraiment, au contraire, invité, une fois que ça s'est posé, à cheminer à l'intérieur de ça. Alors, ça touche, pour les personnes qui interviennent, à une grande confiance de leur part, je trouve, à la fois une humilité aussi, parce que dans les témoignages que j'ai pu récolter, on entend aussi que la question n'est pas de montrer tout de suite ce qu'on sait faire. C'est plutôt au contraire, être presque dans une posture d'effacement pour accompagner ce que les enfants vont inventer et mettre en œuvre. Ça ne veut pas dire que tous les outils que toutes ces personnes, tous ces professionnels ont, ne servent pas, mais ils vont servir justement pour tout d'un coup soutenir une situation, un tâtonnement, une impasse dans laquelle l'enfant va se trouver, etc. Donc là, ça va être au service de ça, mais disons que c'est plus, c'est pas une question de montrer un savoir-faire finalement, c'est plus une manière d'être hein, dans cette posture accompagnante et de transmission.
Oui, puis Agnès, tu nous rappelles que d'être dans une posture de transmission suppose une clarté de positionnement, un objectif éducatif suffisamment défini pour qu'une approche pédagogique à la fois rigoureuse, respectueuse et bienveillante introduise dans un cadre bien évidemment ritualisé de l'écart, du jeu, de la distanciation et permette à l'enfant de rencontrer sa propre liberté dans cette invitation à sublimer le monde. Alors, rien que dans ce paragraphe, on voit que ce n'est pas si simple que ça.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est d'une alchimie. C'est vrai que souvent, quand des personnes viennent à la Maison des Enfants, ils se demandent pourquoi c'est si calme. Est-ce que ce ne serait pas qu'on n'aurait que des enfants nantis, qui auraient déjà tout un équilibre personnel, etc. Et donc, je leur dis à chaque fois, non, c'est le résultat de plein de paramètres, plein de choses, de à la fois du cadre qui est accueillant, d'une équipe qui est solidaire, qui est soutenue par un projet. Du fait que l'enfant il est acteur de ce qui lui arrive. Enfin, il y a comme ça plein de paramètres qui, finalement, ajoutés les uns au bout des autres, font que, effectivement, globalement, évidemment, il y a des moments de tension comme partout, ça bouge, ça crie, tout ça comme partout, c'est normal, ça doit être vivant, mais que globalement, effectivement, on sent cette jubilation, en fait, cette joie qu'ont les enfants à venir dans cette structure et à être comme ça en relation, à entrer en relation avec des adultes. C'est vrai que ça demande, j'avais parlé de la complémentarité d'équipe, mais c'est aussi cette notion de durée, du fait que l'équipe est stable, que donc il y a vraiment des choses aussi qui se font comme ça au fil du temps, que les enfants également sont eux-mêmes dans un engagement à l'année, c'est pas du zapping, c'est pas un coup je viens pas, donc il y a vraiment aussi voilà, beaucoup beaucoup de choses qui participent au fait qu'on peut être en adéquation avec ces valeurs qu'on a envie de défendre et ce projet pédagogique. En tous les cas, c'est tout cet ensemble qui participe à cette dynamique créatrice, je trouve, de la structure, et dont, pour nous, l'enjeu, c'est de justement l'élargir et de venir rejoindre des questions, des problématiques, d'autres professionnels à l'extérieur, qui nous paraissent d'autant plus opportun qu'on est tout à fait conscient et on est directement concerné par la difficulté que tous les secteurs rencontrent, que ce soit la recherche, la santé, la justice, l'éducation, l'artistique, on sait bien que tout ce qui touche la question humaine hein, et de la relation et du lien et traverse des grandes difficultés et que c'est vraiment essentiel d'arriver à ce que par cette dynamique-là pour nous, on puisse contribuer en tous les cas à une réflexion partagée avec d'autres professionnels et essayer de cultiver une résistance créatrice. Et en tous les cas, je pense qu'en faisant ça, on fait œuvre d'utilité publique. Voilà, je vous remercie.